Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie.
COVID-19.
Cube Radio. Cube Radio.
Le retour de Mario Dumont.
Deux heures d'info. De 15 à 17.
Il provoque et remet en question. Il démystifie le vrai du faux.
Mario Dumont et Vincent Desureaux.
Le retour de Mario Dumont.
Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 14h31. On vous retrouve pour passer la prochaine heure et demie ensemble. Vous résumez cette journée, ma foi, un peu folle en actualité. Bonjour Vincent.
Salut Mario.
C'est comme si il y a beaucoup de nouvelles encore liées à la COVID, évidemment, puis à ses conséquences, puis aux reprises d'activité. Mais il y a quand même un paquet d'autres nouvelles. Là. C'est quand il y aurait pas de COVID aujourd'hui, que ce serait déjà une grosse journée en actualité.
Ouais, bon, on peut dire un peu, c'est peut-être la première fois qu'on n'est pas en émission vraiment spéciale, uniquement COVID ou presque, depuis la mi-mars. Là. Parce qu'il y a effectivement beaucoup d'actualité qui est tombée dans les dernières minutes.
Et notamment dans ce qu'on attend dans les prochaines minutes, il y a ce point de presse de Donald Trump, majeur sur deux sujets. Il doit annoncer des mesures drastiques par rapport à la Chine. Certains médias américains pensent qu'il pourrait annoncer l'expulsion d'étudiants chinois, mais il y a 300 quelques mille étudiants chinois dans l'ensemble des universités et collèges américains. Est-ce qu'on peut les expulser tous? Ça a comme pas de bon sens. Et aussi, ben il va sûrement réagir à ce qui se passe à Minneapolis. Est-ce qu'il va calmer le jeu, jeter de l'huile sur le feu?
C'est ça, parce qu'à date, ça a plus été l'inverse, du moins dans les dernières heures.
Non, mais ben, c'est ça, hier, il y avait quand même, il y a un moment hier, où il avait pris ça au sérieux.
Il avait demandé une enquête rapide.
Mais là, des tweets. Mais là, le tweet où il a ni plus ni moins dit que s'il y a d'autres émeutes, on va tirer dans le tas, c'est comme, wow.
When looting starts, shooting starts. Ouais. Donc, qui était d'ailleurs une phrase utilisée dans
fusillade.
Une phrase utilisée par un policier dans une autre histoire raciale qui remonte plus loin dans l'histoire américaine. Mais, bon, peut-être pour te dire, parce qu'il y a quand même eu des développements importants dans les dernières heures, qui concernent cette histoire qui est centrale présentement aux États-Unis. Le policier qui est mis en cause dans ce dossier-là du décès de George Floyd a été finalement arrêté et sera accusé de meurtre. Je vous laisse entendre le procureur Mike Freeman du comté qui l'a annoncé, a fait confirmer il y a quelques minutes. On peut l'écouter.
I'm here to announce that former Minneapolis police officer Derek Chauvin is in custody. Former Minneapolis police officer Derek Chauvin has been charged by the Hennepin County Attorney's Office with murder and with manslaughter.
Alors, on parle d'un meurtre au troisième degré, mais évidemment, ça, c'est temporaire, possiblement. On avait besoin, et on dit d'ailleurs, cette enquête-là s'est faite dans un temps record. Plusieurs réclamaient une arrestation rapide, mais les policiers doivent quand même accumuler de la preuve. On dit qu'on a fait ça vraiment dans un temps record, mais qu'on pourra ensuite aggraver les chefs d'accusation au besoin.
Mais j'avoue que il faut se pincer pour y croire, là. Tu pars d'un type qui paye avec un faux 20$. C'est sûrement pas, je veux dire, c'est malheureux, la fraude, les faux monnayeurs, c'est les commerçants se font payer puis ils n'ont pas leur argent. On comprend que c'est grave. Là,
je connais des gens dans ma famille qui ont déjà malheureusement eu un faux billet dans l'eau.
Ça, c'est la première question. Tu peux pas présumer que celui qui possède, qui a entre ses mains un faux billet, est lui-même un fraudeur. Ça se peut que ce soit le cas. Mais tu peux pas le présumer. Donc peut-être même qu'il est totalement innocent. Mais mettons que c'est un fraudeur. Faut que tu l'arrêtes à ce titre, faut que tu le fasses payer devant la société à ce titre. Mais du point de vue de la force physique, un fraudeur n'est pas une menace. Tu comprends? Il prendra pas à rue, il va pas tuer le monde,
il va pas aller. Il a pas un AK-47 dans les mains.
Il va pas aller assassiner la madame qui sort de la pharmacie, qui sont dans le dentifrice. Tu comprends? La rue n'est pas en danger. Donc, ça requiert pas une intervention d'une telle force à arrêter un fraudeur. Mettons qu'il en était un, mais on est même pas sûr, qui a pas refusé d'obtempérer. Mais là, tu dis, OK, t'as une ville, un État, et là, ça pourrait se répercuter sur d'autres villes. Tu sais, t'es à feu et à sang, des saccages. Quelle bavure policière. Puis là, la cerise sur le sundae, c'est un journaliste arrêté pendant qu'il diffuse.
Ça, oui, journaliste noir, qui d'ailleurs est arrêté. CNN a fait une publication, parce que c'est un journaliste de CNN, arrêté en plein reportage en direct, ainsi que ses collègues de travail. Donc, tôt ce matin, alors qu'on couvrait évidemment la scène, là, après les manifestations.
Puis encore là, tu dis, ils sont fous. Le type, il leur dit, regarde, dites-nous où aller se placer, on va aller se placer. Et d'ailleurs, la police d'État a dit, on pouvait pas savoir, fallait l'arrêter pour vérifier si c'est un journaliste. Écoute, il y a un micro des mains face à une caméra, il y a un camion CNN et diffuse en direct.
C'est assez clair. Pour avoir couvert des manifestations, beaucoup, les journalistes, on se fait rarement écœurer. J'ai déjà été poussé là, par des boucliers, mais dès que tu montes une passe média, les policiers généralement te laissent tranquille.
À la limite, ils vont te pousser, ils vont te dire, garde, tu peux pas rester là, va-t'en à gauche, va-t'en à droite, va-t'en en avant, va-t'en en arrière, mais
on t'arrête pas. D'ailleurs, ils ont été, toute l'équipe, relâchée sans accusation là, par après.
Non, CNN... sauf que l'image live, là, l'image en direct, imagines-tu le
qu'on a gardé, ridicule. Ils ont d'ailleurs bien placé la caméra pour qu'on continue quand même de voir un peu la scène. D'ailleurs, CNN a tweeté plus tard dans la journée que leur journaliste et qui couvrait la manifestation était arrêté, mais que le policier, le derrière, tout ça, lui ne l'était pas. Évidemment, ça a changé dans le courant de la journée. D'ailleurs, information quand même importante qui est sortie également aujourd'hui, c'est que le policier et George Floyd se connaissaient puisqu'ils ont travaillé ensemble dans un resto-bar comme videur, en quelque sorte, là, au El Nuevo Rodeo. Alors, deux hommes qui se connaissaient, ce qui rajoute quand même un élément particulier à cette histoire. Donc, on verra le fond de l'histoire. Mmh. Alors qu'on est à une troisième, évidemment, nuit d'affrontement et on se prépare au pire cette nuit. Entre autres, la garde nationale qui a été envoyée. Alors, de nombreux, on parle de 500 militaires envoyés, des hélicoptères, même des drones qui vont
se s'ouvrir. Mais après l'arrestation, il faudrait qu'il y ait des leaders. Il faudrait qu'il y ait certains messages de paix parce que il y a quand même quelque chose d'absurde à détruire sa propre ville. C'est-à-dire que, et à présumer, là, une fois que tu détruis des dizaines de commerces, de bâtiments, etc., tu peux pas savoir. Probablement que plein de ces commerçants-là étaient 100% d'accord, oui. Militants contre cet acte policier-là.
Parce que plusieurs disent là-bas, c'est écoutez, des manifestations pacifiques, on en a fait 50, et là, à un moment donné, il faut...
faut tout casser.
Alors, et c'est pour ça qu'on... C'est difficile. Il faut dire que la majorité du temps, c'est pacifique, là, mais ça a mal viré pendant le courant de nuit.
Incendie,
on a vu le poste de police qui a été évacué. Alors, vraiment, une histoire particulière, et on attend toujours Donald Trump. Ce qu'il en rajoutera, on sait que sur son tweet là, qui invitait à tirer sur les, ou du moins qui sous-entendait là que les tirs allaient commencer avec le pillage, Twitter l'a signalé comme étant l'apologie de la violence et ça a amené Donald Trump à se faire une série de tweets anti-Twitter. Aujourd'hui, alors, une situation un peu particulière.
Revenons aux nouvelles de la COVID. Donc, le bilan au Québec, tout est encore, en tout cas, au niveau hospitalisation, tout est encore un peu à la baisse. Pas vite, mais bon, quand même.
Ben, pas vite, peut-être à l'exception des hospitalisations aujourd'hui qui baissent quand même d'un coup.
Ouais.
Moins 66 hospitalisations. Donc, on est à 1265. Et ça, c'est une tendance.
C'est presque 300 de moins depuis dimanche passé, je pense.
Hein. Oui, une tendance qui est... vraiment qui est soutenu là de baisse des hospitalisations, 530 cas confirmés aujourd'hui. Alors ça aussi c'est en baisse. Par contre toujours un taux de décès assez élevé avec 61 nouveaux décès, 6 personnes de moins aux soins intensifs, c'est le bilan qu'on a aujourd'hui.
Mais également les soins intensifs par contre, j'avoue que on a déjà parlé de ça ensemble, mais je serais vraiment très curieux d'avoir le flow. C'est-à-dire quand on nous dit aux soins intensifs, moins 6, puis on nous dit, mettons, hier, il y avait 182, aujourd'hui, il y a 176, dans le total des soins intensifs au Québec, ça fait moins 6. Mais dire, est-ce qu'il y en a, mettons, là, sur les 182 d'hier, il y en a 16 qui sont morts, 10 nouveaux qui sont entrés, tu vois, quel est le flot des gens? Des gens qui sortent guéris, des gens qui sortent décédés, des soins intensifs, combien rentrent? Parce que maintenant, on sait plus, là. Parce que, je suis quand même impressionné de les gens qui commencent à entrer en détresse respiratoire, là. Mais il y en a qui restent aux soins intensifs, ça n'a pas de bon sens comment ils restent
des
longtemps.
Semaines, hein?
Des semaines, des trois. En fait, il y en a, j'ai vu des cas qui étaient restés 4 semaines aux soins intensifs rétablis. Puis il y en a un des décès, c'est un préposé, je pense que c'est un préposé aux bénéficiaires qui est décédé, il était aux soins intensifs depuis près de 5 semaines. Donc il était intubé aux soins intensifs depuis 5 semaines quand ils l'ont perdu là. Donc des gens aux soins, donc on sait plus trop aux soins intensifs, des gens qui sont là très longtemps, qui décèdent, qui guérit, Combien de nouveaux entrent aux soins intensifs? Je serais quand même curieux d'avoir ces données-là.
C'est juste de dire, sur la Côte-Nord, premier cas de la COVID dans un CHSLD, malheureusement, ce qu'a appris TVA Nouvelles aujourd'hui, un employé qui travaille à Sept-Îles, le 6 de la Côte-Nord, qui n'a pas précisé s'il travaillait à la résidence Gustave Gaudreau ou à la résidence Urgelle Pelletier. Il y en a deux. Alors, une cellule de crise, on gère ça, mais une nouvelle inquiétante pour la région de la Côte-Nord.
Puisqu'on parle d'un cas, il y a une province qui avait plus de cas, qui avait zéro cas, zéro décès depuis des jours et des jours. Le nouveau Brunswick et qui s'en vantait, qui s'en faisait une fierté. Mais là, eux autres, c'est toute une explosion de cas à cause de, c'est bizarre, à cause d'un docteur.
Oui, et ça montre quand même les dangers des événements comme ça, de super contagion, de multiplication. Un médecin qui a exposé au moins 150 personnes à la COVID-19 dans la région de Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Il a été suspendu de ses fonctions. C'est ce que le président directeur général du réseau de la santé Vitalité, le réseau qui s'occupe des services en français, a confirmé aujourd'hui, lui qui a contracté le virus au Québec, mais qui a continué d'offrir des soins au Nouveau-Brunswick sans suivre de période de quarantaine. Là. Alors, on dit que parmi les 150 personnes, 50 sont des travailleurs de l'hôpital de la région. Alors, évidemment, on fait des tests de dépistage.
Une centaine d'autres dans la communauté. Ouais.
Exactement. Alors, une nouvelle particulière qui montre quand même que quand tu es dans le personnel de la santé, tu dois encore plus respecter les règles du gouvernement.
Ce qui est à voir, c'est que le danger de ces éclosions-là, c'est que là, ces 150-là, combien d'entre eux, t'es dans une province où plus personne n'a peur de la maladie, il y a plus de cas ou à peu près plus de cas. Donc, combien d'entre eux ont participé eux-mêmes à des événements, des rencontres, etc. C'est le risque de redéclencher une nouvelle propagation. Monsieur Legault, qui est dans sa propre région aujourd'hui et qu'il représente à titre de député, la Nodière.
Oui, d'ailleurs, il y aura un point de presse à 15h parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de point de presse à 13h normalement avec tout le monde. C'était annulé, ou ben, pas annulé, mais il n'y en avait pas aujourd'hui. On se tournait davantage vers la région de la Nodière, alors que à la fois M. Legault et Mme McCann, la ministre de la Santé, étaient en visite. C'est quand même la quatrième région la plus touchée, là, quand même une zone chaude du Québec avec Joliette. C'est 3900 cas dans la Nodière, 182 décès en date d'aujourd'hui. Donc après Montréal, Laval et la Montérégie. Alors on donnera des détails sur la gestion là, plus locale des éclosions dans le secteur de la Nodière tantôt. Et il y aura assurément des réactions et des questions posées à François Legault sur...
Mais sur l'attaque de la directrice de la santé publique de Montréal, quand même, qui a attaqué le gouvernement sur plusieurs fronts. Là, que la crise a été gérée à Québec alors qu'ils auraient dû la gérer à partir de Montréal. Qu'en santé publique, Gaétan Barrette avait coupé les libéraux avant, mais que la CAQ a continué à couper. Elle attaque le docteur Arruda. Lui aussi, là, il aurait dû participer à gérer la crise à Montréal. Docteur Arruda renvoie ça à François Legault en disant, mais là, le gouvernement était à Québec. Embarrassant, je trouve, pour M. Legault, là, tout ça. Là.
Effectivement, c'est pour ça que ce serait intéressant de voir sa réaction à cette entrevue de Dr. Mylène Drouin à la presse aujourd'hui, où elle explique que la métropole, ayant été frappée de plein fouet, là, étant centrale dans toute cette crise, on aurait dû gérer la crise probablement à partir de Montréal plutôt que Québec, mais contentement aussi sur les compressions budgétaires. Elle en avait déjà fait part dans un point de presse, alors que François Legault était juste à côté des ressources financières qui avaient été coupées de l'ordre de 30%, et également l'organigramme. Là. Puis on en avait quand même parlé là, à quel point c'est complexe le système de la santé, les CIS, les CIUS, et le fait que la Direction régionale de santé publique n'a pas l'autorité nécessaire pour pouvoir agir rapidement sur les CIUS des établissements de santé. M. Arruda a été questionné là-dessus alors qu'il faisait une annonce là, concernant autre chose cet après-midi, et on sentait quand même un certain malaise. Là. Il explique que les coupables, les raisons, on aura tout un temps pour analyser tout ça, qu'effectivement, Dr. Drouin lui avait demandé qu'on devrait se voir un petit peu plus physiquement là, donc à Montréal, mais que la crise était quand même gérée de Québec et qu'on fait ce qu'on peut, que c'était du jamais vu. Alors
Docteur Arruda a dit que ça ne dérangeait pas, que c'était correct qu'elle s'exprime, mais dans une réponse de 9 minutes à peu près.
Oui, c'est pour ça que je ne fais pas entendre un extrait. C'est dur de saisir un bout là bien précis.
C'est
parce que
des réponses les plus longues. La longueur de la réponse traduit le malaise plus que n'importe quel élément de contenu là.
Tout à fait. Ouais. Alors on verra si M. Legault aura une réponse plus synthétisée tantôt.
À Ottawa, chose étonnante, il y a M. Trudeau qui a annoncé de l'argent.
oui, Mario, il a annoncé quelques millions aujourd'hui quand même.
Mais moins d'un milliard.
Oui, écoute, 600...
Mais c'est vendredi hein.
C'est vendredi. 650 millions quand même.
Les deux tiers d'un milliard.
Mais je me souviens que la dernière fois qu'il avait annoncé ça en bas d'un milliard, mais il en restait comme un autre 40 à annoncer après, qui était la subvention salariale qui était extensionnée. Mais oui, M. Trudeau qui annonce 650 millions de dollars pour les communautés autochtones, particulièrement dans les soins de santé, donc 285 millions. Je vous laisse l'entendre sur où ira cet argent pour les soins de santé.
C'est de l'argent qui va permettre d'augmenter le nombre d'infirmières dans les communautés des Premières Nations et d'acheter du matériel spécialisé. Les fonds seront aussi utilisés pour appuyer le travail qu'on accomplit avec les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour trouver des solutions à long terme axées sur les communautés en matière de santé.
S'ajoute à ça, donc, programme d'aide aux revenus pour aider...
C'est des fonds qui va être disponibles, qu'il a trouvé, ça, ou ça va être emprunté, tu penses?
Je pense pas qu'il reste grand-chose dans la caisse, là. Mais, écoute...
Mais tu sais, emprunté 260 milliards ou 261, là...
C'est un peu ça.
Sur ton sommeil, là.
Effectivement, ça changera pas grand-chose. Également, quand même, on avait déjà annoncé un 10 millions pour refuge des abris pour femmes et enfants autochtones. On ajoute 85 millions de dollars. Alors, c'est fait partie de cette annonce aujourd'hui. Également, retour sur la réunion des premiers ministres hier, où on a parlé de plusieurs points, là, les rapports dans des forces armées sur les CHSLD, des programmes de détection et d'isolation du virus, et également le 10 jours de congés payés.
Et là, qu'est-ce qui pourrait l'aider à débloquer? Bon, parce que les provinces n'en veulent pas tellement.
Ben, il dit que certains premiers ministres avaient une inquiétude par rapport aux compagnies. Ils ne voulaient pas rajouter sur le fardeau des compagnies qui en arrachent déjà. Mais M. Trudeau...
Mais qui a de l'argent de l'os qui pourrait payer ça, là?
Ben, le gouvernement fédéral va s'en charger, Mario. Alors,
ça pourrait prendre le plus gros de la facture.
M. Trudeau a dit qu'il allait prendre une grande partie de la facture. Alors, il n'y a pas d'inquiétude. Papa va payer pour tout ça. Rappelle que...
C'est des fonds qui sont, il y a un surplus quelque part qu'on n'avait pas prévu.
Il n'y en a plus de fonds non plus. Justement, il n'y a pas de fonds. Les grands navires de croisière, et là, bon, confirmé l'annonce du ministre des Transports. Alors, les grands navires de croisière bannis au Canada jusqu'au 31 octobre. Et sur les billets d'avion, beaucoup de questions. Ça a été difficile d'avoir une réponse de M. Trudeau là-dessus. Ça a pris deux journalistes pour...
Dont la deuxième qui commence sa question, en fait. Ben, je repose la question de ma collègue Michel, parce que vous avez pas répondu tout à l'heure.
Oui, et c'est après que notre collègue Michel Lamarche a dit, ben, vous avez pas répondu, mais ça a pris trois fois. Puis on n'a pas eu vraiment de réponse, mais la question étant, parce que lorsqu'on pose la question à M. Trudeau, pourquoi vous demandez pas qu'il y ait un remboursement aux Canadiens, il répond, ben... notre priorité, ce sont les Canadiens, mais justement, les Canadiens qui, dans certains cas, des familles qui auraient bien besoin de se faire rembourser le billet qui n'utiliseront pas.
Mais à un moment donné, il a quand même dit une phrase, Cliff, il faut tellement décoder, il dit tellement peu de choses, mais il a dit qu'il faut que les compagnies aériennes survivent, soient encore là après. Là, ça, c'est la seule chose qu'on peut décoder, que... Ben, il craint que si on les force à rembourser, il y en a qui passeront pas à travers et qui seront plus là après.
Mais je vais te faire écouter comme la troisième reprise, là, où il a donné un petit peu plus de contenu. On lui a demandé, est-ce que les Canadiens méritent pas donc de recevoir cet argent-là? Écoutons Justin Trudeau.
Non, au contraire, je comprends qu'il y ait des Canadiens qui ont épargné longtemps pour acheter des billets d'avion qui leur sont très chers. Et nous allons travailler avec l'industrie. Nous sommes en train de regarder ce que d'autres compagnies aériennes font à travers le monde. Et nous allons avoir plus à dire dans les semaines à venir.
Bon, les familles qui ont acheté des billets qui leur sont très chers.
Oui.
Mais qui ne veulent plus rien pour l'instant.
On va parler tout de suite de ce projet. On sent que ça s'en vient. Puis je vous le dis tout de suite, j'ai l'impression que on nous avait dit début juin. Là. Puis le début juin, mais c'est lundi. Là. On est vendredi le 29 mai. Puis quand on va se reparler lundi en onde, on va être rendu au mois de juin. On nous avait dit que ce sera à l'étude là, ces applications de traçage. Donc des applications que chacun devrait installer sur son cellulaire. Le but étant que si on détecte que vous avez, si on teste que vous avez la COVID, on pourra voir de qui vous vous êtes approché au cours des 4-5 derniers jours. Et donc, le travail de la santé publique, de retraçage des personnes potentiellement infectées pour que ces personnes se mettent en quarantaine, aillent se faire tester pour stopper la propagation, le travail devient beaucoup plus facile. La question, évidemment, c'est une question de confidentialité, de protection des données. Ça inquiète beaucoup de gens. Paul Laurier, ex-enquêteur de la Sûreté du Québec, président directeur général de Vigitech, spécialisé en informatique judiciaire, est avec nous. Bonjour, M. Laurier.
Bonjour, Mario.
Vous faites partie des inquiets là, de ça.
Ah, plus qu'inquiet.
Plus qu'inquiet.
Ben moi je pense qu'on a un canon de 20 pouces pour tuer une mouche, dans le sens où la meilleure application au monde va toujours être aussi faible sur le support sur lequel on va la déposer. Il y a deux choses dans les applications de traçage. Il y a l'application et il y a le module qui va contenir l'application. Et dans un monde où 95% de la population, c'est des technoploucs, on essaye de mettre le gouvernement...
Des technoploucs, ça m'inclut, ça, là.
Oh oui, ben il y a personne qui vient au monde avec un cellulaire, on s'entend. On est habitué des consoles de jeux, on a des outils dans les mains, des téléphones cellulaires qui ont plus de force que des ordinateurs qui ont mis des fusées Apollo dans les airs, qui ont plus de puissance de calcul. C'est qu'au niveau de la technologie, on peut avoir la meilleure application. Et je suis pas contre l'application, je le dis depuis le début. Moi, si le gouvernement veut imposer à ses citoyens une application de traçage ou veut mettre de l'avant l'application de traçage, aucun problème. Mettez ça sur un petit bracelet avec qui a un module Bluetooth et un module GPS et ça va être totalement anonyme avec un numéro de série. Mais venez pas mettre ça sur l'appareil du citoyen parce que l'appareil du citoyen est ultra vulnérable.
Ouais.
C'est l'enjeu. La vulnérabilité, elle est dans plusieurs, puis combien de dossiers que je fais de femmes espionnées, de gens complètement hackés qui deviennent complètement fous parce qu'ils se sentent suivis.
Parce que donc votre crainte, c'est pas nécessairement Big Brother, l'État prend toutes les données pour nous surveiller. C'est que chaque individu se retrouve avec une espèce d'application qu'il trace, et si lui se fait hacker par quelqu'un qui veut du mal, l'individu est vulnérable.
Ben en fait, c'est que la première chose, vous êtes obligé de mettre d'autoriser l'API. L'API étant une interface entre la machine et l'application qui va être installée. Vous ouvrez déjà une première porte. Là,
mais ça, on le fait déjà. Là, je veux dire, on le fait avec la météo. Non, dès qu'on dit qu'on veut savoir la météo où on est, toutes sortes de patentes de même, là, non, on se rend un peu à risque. Tout le monde le fait. Non?
Ben non, pas dans le même sens, parce okay. que là, vous ouvrez une porte, l'API ouvre une porte vraiment exceptionnelle à votre téléphone, à l'appareil Bluetooth, là, vous ouvrez une porte vraiment exceptionnelle. Vous êtes directement sur l'antenne Bluetooth qui, elle, est vulnérable à des attaques informatiques. C'est connu, c'est documenté, il en sort à tous les jours. C'est pas une technologie qui est faite. Puis là, vous ramassez des clés.
OK, donc pour que les deux cellulaires, mettons que vous et moi, on se croise, là, par hasard, quelque part, puis là, moi, j'ai la COVID, puis là, on dit, hey, Paul Laurier est dans la liste des gens qui ont croisé Mario Dumont hier. Et là, donc, on vous avertit, là, on vous avez un message vite en disant il va te faire tester, surveille-toi. Tu as été en contact avec quelqu'un qui a la COVID, mais pour que nos deux cellulaires se soient parlé, c'est par Bluetooth. C'est l'application va utiliser Bluetooth pour retracer qu'on s'est croisé dans une épicerie ou qu'on s'est croisé dans un bureau ou quelque chose comme ça.
Ben, qu'il y a eu un contact, puis que là, il y a eu une proximité parce que le Bluetooth a à peu près un rayon efficace d'une dizaine de mètres. Puis encore là, 10 mètres, c'est pas prouvé. Là, on parle à peu près 3-4 mètres. Donc, si vous êtes exposé, puis là, c'est des paramétrés dans les applications, si vous êtes exposé pendant... Mais c'est pas parce que deux téléphones sont un proche de l'autre que vous êtes nécessairement...
À risque, mais ça donne un indice quand même, là, c'est ça. Là.
Ouais, si je mets deux sacoches une à côté de l'autre dans un hall d'entrée, le magasin dit « Laissez vos sacoches là, je mets la sacoche là. » Les deux téléphones vont se parler pendant une demi-heure. Ça va créer des faux positifs qui sont...
Ouais, je comprends.
Il y a plein de cas de figure, mais moi, j'ai aucun problème avec ce qu'il y ait des applications pour qu'on aide le gouvernement à éradiquer le COVID, mais mettez ça sur un bidule qui est complètement séparé parce que il y a, puis c'est la loi sur la protection des données au Canada, on s'entend qu'on n'est pas les premiers. On vient de juger Google, dans le scandale Cambridge Analytica pour une infraction qui a eu lieu en 2012.
Mais quand on nous dit qu'on va, je vais essayer de dire le mot, tout le monde le rate, là, mais anonymiser. Donc, rendre anonyme tout ça, c'est-à-dire que l'application va faire le traçage, mais retiendra pas les noms. Ça vous dit quoi, ça? Comme, parce que ça semble être ça, la grosse sécurité que nous promettent les gouvernements.
Ben, en fait, la sécurité, vous émettez des clés, une clé publique, une clé privée, avec des serveurs qui sont pas contrôlés. Les données, même s'ils sont anonymes, à quelque part, vous avez la trace d'un cellulaire, vous avez un numéro de série, vous avez quelque chose qui va identifier votre cellulaire. Hein. Vous êtes obligé de rentrer, vous êtes obligé de mettre l'application en fonction d'un appareil. Donc, c'est pas si anonyme que ça. Si on veut vous retracer, il faut être capable de vous renvoyer un signal, de dire que vous avez été en contact avec quelqu'un qui était... Donc, à quelque part, et puis là, je regardais je regardais les gens chez Mila. Qui va gérer le serveur? C'est des gens qui ont eu des enquêtes de sécurité, parce que faut se rappeler, le Desjardins, c'est une banque, c'était sécuritaire. Tous les utilisateurs ont leur données personnelles sur le web.
Ouais.
Il y a des portes. La sécurité, il n'y a rien qui est sécuritaire au niveau informatique. C'est une question de temps avant que ça soit percé. Puis les compagnies font ce qu'on appelle des patchs, font des corrections de mise à jour de logiciels constamment. Là, on est sur une application. Ça fait 6 mois qu'on est en développement. On ne l'a pas testé vraiment. Chaque pays l'utilise un peu. Des géants comme Google et Apple ouvrent des portes sur nos appareils cellulaires. Moi, je pense qu'on va beaucoup trop vite. Oui, on va combattre la COVID. Pas de problème avec ça, mais prenez un bidule, ça coûte à peu près 50 $ à fabriquer, un module GPS, un module Bluetooth, vous mettez ça autour de votre poignet, et puis vous le branchez sur votre ordinateur, si vous allez retracer tous les gens avec qui vous avez été en contact par le numéro de série, puis par la l'implication de l'utilisateur. Si
mais c'est beaucoup plus compliqué parce que le sel, les gens l'ont déjà tout dans leur poche. Là, on parle de créer un bracelet, d'en fabriquer des millions, d'y distribuer, de convaincre les gens de le porter, etc. Là.
Ben, si on parle, mettons, de population vulnérable à Montréal, là, dans Montréal-Nord, combien de gens ont des cellulaires? Si on n'est pas capable de se payer des masques, est-ce qu'on est capable de se payer des cellulaires? Et c'est les zones chaudes. On parle de zones chaudes. On parle de vouloir enrayer la propagation du virus dans des zones chaudes. Fait que c'est pas tout le monde qui a des cellulaires, c'est pas tout le monde. Android a à peu près 5-6 saveurs présentement de firmware. Là, on appelle ça des saveurs, le marshmallow, caramel, KitKat, whatever. C'est pas tout le monde qui ont les mêmes cellulaires qui sont updatables, qui sont qui sont prêts à recevoir cette application-là. Fait que oui, l'idée de retracer, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais pas sur un cellulaire, pas sur mon cellulaire personnel. Moi, je suis en train de retomber un vieux BlackBerry, un système complètement fermé. C'est pas question. J'update pas mon cellulaire chez Apple parce qu'on me demande d'ouvrir la porte. Je veux pas l'ouvrir, cette porte-là, parce que c'est bien au Canada, mais si je vais dans des pays étrangers, puis on le sait, il y a des guerres, technologiques sous la chambre. Est-ce qu'on garantit que les Chinois, les Russes, les Américains, les Israéliens, les Français, tous ceux qui sont en guerre technologique sur le terrain que les gens voient pas, vont pas utiliser cette porte-là pour après ça venir encore plus nous espionner ou nous voler des secrets ou voler des communications? L'enjeu est là. Moi, j'ai pas de problème de bidule, mais mettez-les sur un bidule séparé, pas sur le mien. Parce que la faille, c'est qu'on permet, on ouvre une porte pour mettre une application. L'application en soi, de s'installer. On a besoin de cette porte-là pour être anonyme.
Ouais.
Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je pense qu'on est beaucoup trop rapide dans le déploiement de cette technologie.
On va surveiller comment ça évolue dans les semaines à venir. Paul Laurier, merci.
Bonne journée. Bon week-end.
Une énorme nouvelle qui est tombée, Vincent, pendant qu'on parlait à M. Laurier.
Oui, concernant quelque chose qui était, ma foi, très très attendu, là, concernant les salons de coiffure.
Qui ouvrent hors Montréal lundi, donc
exactement.
Dans 3 jours. Là, à Montréal, on espérait le 8, donc le lundi, 7 jours plus tard, mais...
Faudra attendre un petit peu plus, mais pas beaucoup. 15 juin. C'est ce que le gouvernement du Québec vient d'annoncer. Alors, coiffeurs, barbiers, les tatoueurs, les esthéticiennes un peu partout. Donc, Grand Montréal, MRC de Joliette vont pouvoir ouvrir à partir du 15 juin. Alors que les autres, effectivement, c'est dès lundi.
Et il y a le président Trump qui est en conférence de presse. Évidemment, là, je l'écoute pas parce que je suis en émission, mais ce que je vois des titres et des bandeaux sur tous les grands réseaux, il a l'air à s'en donner à cœur joie contre la Chine et contre l'Organisation mondiale de la santé.
Ah oui, écoute, c'est le président qui est virulent là, envers la Chine. D'ailleurs, on le voit qui quitte, alors on ne prend pas aucune question, alors qu'on attendait de nombreuses questions sur ce qui se passe à Minneapolis. Alors, il ne répond pas, il est tout simplement retourné. Après avoir donc dénoncé vivement la Chine, disant de un qu'il vole les États-Unis depuis des décennies, les accuse d'espionnage, de violation des traités avec Hong Kong, qui s'en sort trop facilement au fil des années, blâme les précédents gouvernements, blâme la Chine pour le virus d'avoir causé 100 000 morts aux États-Unis, même il parlait d'1 million de morts dans le monde, c'est pas le chiffre qu'on a, là, on est à 350 000, c'est le chiffre qu'a donné le président, l'appelant toujours le virus de Wuhan. Alors il annonce d'un stopper les fonds à l'OMS et couper les
Ça, il avait déjà menacé.
Mais
là, il le fait.
et coupe complètement les relations avec l'OMS, qu'ils accusent d'être pro-Chine, puisque la Chine n'investit que 40 millions, alors que les États-Unis en financent pour 450 millions. Les fonds qui iront dans d'autres œuvres, disons, internationales, promet des actions également au niveau économique, alors veut se battre contre les entreprises chinoises déloyales sur les marchés américains. Alors, lançait plusieurs fronts là, contre la Chine. Alors, on verra la réaction. J'essaie de voir sur les marchés si ça semblait stresser les investisseurs. Là, pour l'instant, le Dow Jones qui était dans le rouge, mais à peu près comme il l'était depuis le début de la journée. Alors, pour l'instant, ça semble assez stable. Mais il faudra voir la réponse chinoise qui souvent répond également avec un ton de fermeture aussi.